et ouvrez vos oreilles.
J'aime beaucoup notre vieil océan et tout ce qu'il y a dedans.
L'histoire de la petite sirène, un texte de Pierre Sange avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Réalisation Cédric Ossir. Des histoires merveilleuses, une collection à découvrir sur franceculture.fr et l'application Radio France. Vous écoutez France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série sur les métaphysiques contemporaines, aujourd'hui, peut-on faire de la métaphysique quand on est pragmatiste? Le cas William James. Le philosophe William James a fondé à la fin du 19e siècle le courant philosophique états-unien qu'on appelle le pragmatisme et auquel nous avons déjà consacré une série. L'idée fondamentale du pragmatisme est que les idées ne doivent être évaluées qu'en considérant leurs effets pratiques. C'est donc un courant par nature critique envers les idées qui portent sur un « au-delà de toute expérience possible », c'est-à-dire les idées qui portent sur un domaine métaphysique au sens ordinaire du mot. Cependant, William James était très intéressé par la religion, plus exactement par le versant émotionnel de celle-ci. Les dogmes ne l'intéressaient pas. James pensait que la foi, qu'il définissait comme une conversation avec l'invisible, donne à l'individu une vitalité très appréciable, un optimisme dans la vie. Il s'est alors demandé, au fond, de cet invisible, le croyant ne fait-il pas une véritable expérience, même si c'est un peu différent des expériences sensibles ordinaires? Et James a répondu que oui, en semblant valider, pour finir, non seulement le caractère bon de ces réalités invisibles du croyant, mais leur pleine vérité. Qu'il puisse s'agir éventuellement de purs construits psychiques, d'illusions, ce n'est pas son problème. Mais pourrait-on objecter, si tout ce qui nous passe par la tête et nous fait du bien peut ainsi être tenu pour vrai, où va-t-on? D'ailleurs, dans cette affaire, James est-il aussi pragmatiste qu'il le prétend? Et si, sur ces points, il nous servait une pure et simple métaphysique personnelle? Bonjour Stéphane Madel-Rieux.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et spécialiste du courant pragmatiste américain. Et bonjour Didier Debèze.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi spécialiste du pragmatisme, chercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique, c'est le CNRS belge, et enseignant en philosophie contemporaine à l'Université Libre de Bruxelles. Alors en 1898, James a écrit un texte considéré comme assez fondateur, important, qui s'intitule « Conception philosophique et résultats pratiques », où il met en œuvre un nouveau principe. Il faut examiner les idées, dit-il, en se tournant vers leurs fruits, leurs conséquences, je cite toujours, les faits qu'elles sont capables de produire, autrement dit, font-elles du bien ou pas, c'est la clé pour évaluer les idées. Ce principe est, Stéphane Madel-Rieux, à la source du courant pragmatiste. Signifie-t-il que les idées validées sont vraies ou simplement qu'elles sont bonnes? C'est déjà pas mal, on a un principe de classement et a priori, on s'en tient là.
Alors le pragmatisme dans cette conférence de 1898 est d'abord présenté non pas comme une théorie de la vérité des idées, mais d'abord comme une théorie du sens des idées. Et oui. Le pragmatisme est présent d'ailleurs comme une méthode pour clarifier le sens des idées. Et James reprenait cette méthode à son collègue et ami Peirce, le fondateur du pragmatisme. Et il était soucieux de ne pas laisser les concepts à leur abstraction.
Oui.
Ou les conceptions philosophiques à leur abstraction. Et il cherchait à les rendre claires en allant voir quelle différence pratique ces concepts font dans la vie des individus.
Donc du bien ou du mal, quoi, concret.
Du bien ou du mal, ou pour certains concepts, comme des concepts très ordinaires, comme le concept de chaise,
oui.
Quelle différence cela fait pour un enfant, par exemple, de maîtriser le concept de chaise?
Oui.
Ça fait une différence dans sa conduite. Effectivement, il sait qu'une chaise, on peut s'asseoir dessus, et donc s'il ne maîtrise pas le concept de chaise, il aura une conduite qui sera différente. Et par conséquent, il était intéressé d'abord à comprendre les conceptions philosophiques, y compris les croyances religieuses, ou les
oui.
grandes croyances religieuses, en fonction des effets pratiques dans l'expérience. Avant même de savoir si elles sont vraies ou fausses,
oui.
si elles font du bien ou pas, il faut d'abord savoir quel sens elles ont. Parce que sinon, on risque de parler sans savoir de quoi on parle, mm-hmm. sans comprendre le sens de ces conceptions.
Donc normalement, compte tenu de ce que vous venez d'expliquer, on n'affirme rien en termes de valeur des idées, de sens des idées, sans avoir fait une enquête à leur sujet. On demande aux gens comment cette idée vit, si j'ose dire, dans leur vie, Didier Debèze.
Alors oui, je rajouterais un élément, c'est que pragmatisme s'est formé à partir de pragma qui a deux sens. C'est à la fois expérience et c'est action. C'est-à-dire il n'y a pas d'expérience qui ne soit pas une action, il n'y a pas d'action qui ne soit pas un phénomène d'expérience. Mmh. Et c'est très important parce que je crois que pour cette émission, il est aussi essentiel de se rappeler que le constat de James, c'est que le concept d'expérience est peut-être un des plus décevants de l'histoire de la philosophie moderne, parce qu'il a été réduit à de l'expérience psychologique, subjective, individuelle, à une théorie des facultés. Et il faut, au contraire, la pluraliser,
la libérer
de son carcan anthropologique, en quelque sorte. Oui. En tout cas, il faut redémultiplier le carcan, ce carcan-là. Et donc, la question, c'est à quoi servent les idées pour James? C'est pas quel est leur statut en tant que tel, mais ça oui. sert à quoi une idée? Et les idées, c'est extraordinaire pour James. Ce sont des actions. Donc ce ne sont pas des représentations, ce ne sont pas des imitations, ce ne sont pas des miroirs du réel, ce sont des actions, ce sont des guides. C'est quelque chose qui permet, non pas à un individu uniquement, mais qui permet à des collectifs, qui permet à des scientifiques, qui permet à des philosophes, de se guider dans un monde pluriel et indéterminé. Et c'est cette vision profonde et tragique de James, que notre univers est un univers indéterminé, que nous ne savons pas de quoi sera fait le futur, que nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà de notre expérience, et nous avons besoin de guides. Et les idées, ce sont des guides. Bon. Mais ce sont des actions, et donc elles nous orientent d'une certaine manière. Donc, il y a une espèce de doxa sur le pragmatisme, un peu utilitariste, les idées bonnes sont suffisantes, etc. Non, non, c'est très rigoureux. Les idées, ce sont des actions. Si vous voulez savoir ce qu'elles sont, vous devez voir ce qu'elles font. Et faire ce qu'elles font, c'est mener une enquête. Et ce sont des enquêtes rigoureuses. Ça ne veut pas dire « je vais, moi, personnellement, aller voir ». Non, ce sont des enquêtes.
D'ailleurs, alors, puisque nous allons évoquer les idées ordinairement considérées comme métaphysiques, je pense que vous m'accorderez tous les deux que l'idée de Dieu mm-hmm. est une idée métaphysique, mm-hmm. eh bien, James fera une enquête sur ce que veut dire dans la vie des gens croire en Dieu. Cette enquête, elle aura lieu en 1902, en tout cas la publication. Mm-hmm. Ça s'appelle le fameux livre Varieties, les formes multiples de l'expérience religieuse. Mais là, on est quelques années avant. Et c'est vrai que James a une façon quand même d'annoncer la couleur, puisqu'il dit dès cet article de 1898, je cite, « L'idée de Dieu, bien qu'elle puisse être inférieure en clarté à ces notions mathématiques si courantes en philosophie mécanique, possède au moins cette supériorité pratique qu'elle garantit un ordre idéal qui sera définitivement préservé. » Stéphane Madelrieux, cela veut dire que très tôt dans sa vie, James pense que l'idée de Dieu fait du bien sur le plan pratique. Et là, l'argument de cette phrase, c'est qu'il crée de l'ordre dans la vie des gens.
Oui, il a été très tôt influencé par les idées religieuses de son père, hein, d'ailleurs, qui était une sorte de théologien un peu hérétique, disciple de Swedenborg. La religion a été une des plus grandes questions dans sa vie, mais il a cherché à la concilier, ou à concilier certaines croyances religieuses avec sa formation de scientifique. Oui. D'autre part, puisqu'il était médecin, il était psychologue, il était darwinien. Et on ne peut plus croire en n'importe quel dieu lorsqu'on est darwinien. On ne peut plus croire en n'importe quel dieu quand on a fondé le premier laboratoire de psychologie expérimentale aux États-Unis. Et par conséquent, il faut croire en Dieu, il faut que cette croyance soit aussi compatible avec des croyances scientifiques de la psychologie moderne, avec les croyances scientifiques de la biologie darwinienne. Et donc, ça fait peser quand même un certain nombre de contraintes sur le type de Dieu dans lequel on peut croire, mm-hmm. ou dans Bien lequel sûr. On serait autorisé à croire. Donc, James a toute sa vie cherché à défendre l'option religieuse, mm-hmm. la possibilité ou le droit de croire, mais pas de croire en n'importe quoi, ni de croire en n'importe quel Dieu.
Et alors, qu'est-ce que c'est le Dieu qui nous fait du bien pour James?
Alors, ce n'est pas le Dieu des philosophes.
C'est-à-dire le principe premier, ce que vous appelez les philosophes rationalistes, qui évoquent comme Descartes un principe premier, mais sans chair, si j'ose dire, sans sentiment. C'est un Dieu que nous nous imaginerions plutôt chez James, aimant.
Alors, tout à fait, c'est effectivement... Vous avez cité tout à l'heure le pragmatisme comme étant peut-être anti-métaphysique, se détournant de la métaphysique parce que, James le dit, le pragmatisme se détourne des principes premiers, des catégories absolues, des choses nécessaires, des origines absolues. Et s'il y a un Dieu, effectivement, ce n'est pas ce Dieu qui serait le principe de toute chose, qui serait l'absolu, le tout dans lequel chaque phénomène prend son sens ou sa valeur. Ça n'est pas du tout ça, effectivement, que James a en vue. Et il a tout un débat avec, justement, des philosophes post-kantiens, hegéliens, qui identifient Dieu à un tout ou à l'un absolu en lequel toute chose prend son sens. Son Dieu, c'est effectivement un Dieu qui est tourné vers l'expérience et il est vu du point de vue de l'expérience humaine, en fait. Et il est vu du point de vue des effets que la croyance en Dieu ferait dans l'expérience humaine. Et si vous prenez à la rigueur le principe du pragmatisme, à savoir que les idées n'ont de sens que dans leurs effets pratiques, l'idée de Dieu, pour James, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une disposition à espérer. Oui. Même lorsque les situations semblent désespérées.
Donc c'est quand même un Dieu assez puissant, parce que ça veut dire que nous pouvons le placer en lui une confiance quand même sur ce qu'il va nous faire à nous individus, nous aider peut-être dans nos efforts, et dans ce qu'il peut faire de bien au monde.
Alors dans cette enquête sur l'effet de la croyance de Dieu dans l'expérience des êtres humains, en réalité... le sens du concept Dieu, c'est simplement cette confiance, effectivement. Ceux qui croient en Dieu peuvent avoir une certaine confiance dans le cours des choses. Ils peuvent nourrir un certain espoir que la mort n'aura pas le dernier mot, par exemple, que les choses ne seront pas définitivement perdues, qu'il y aura peut-être une issue aux situations les plus désespérées. Mais ça ne veut rien dire de plus.
D'accord.
Donc en même temps, c'est une restriction, une réduction énorme du concept traditionnel de Dieu. C'est simplement l'idée d'une force morale, qui n'est pas infinie, qui n'est pas toute puissante, qui pourrait vous venir en aide dans les moments les plus désespérés. Et c'est tout.
Justement, vous parliez de religions qui n'intéressent pas James, voire qu'il critique. Des religions, par exemple, très dogmatiques, où il y a des contraintes importantes dans la vie, des rituels rigides. Ça, c'est pas du tout ce qu'il aime. Il aime, par exemple, des mouvements même un peu dissidents dans les religions. Le mouvement Mind Cure, prendre soin de son âme, les mouvements aussi qui sont très américains, quoi, il faut bien le dire, un peu antérieurs au mouvement évangéliste d'aujourd'hui, où il y a une part mystique, une énergie collective, pas trop de dogmes. C'est pas un dieu intellectuel, c'est un dieu charnel, mais c'est vrai que James ne... comment dire, est moins bavard sur la critique éventuelle, y compris de ses religions, de la communion et du mysticisme. Il est quand même dans l'éloge extraordinaire, Didier Debèze.
Alors, je crois que pour le débat, il faut distinguer, à mon avis, trois choses. Parce qu'autrement, on risque de rentrer dans des confusions sur le statut du religieux, de Dieu, dans le pragmatisme. La première chose, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme n'est pas un théisme, nécessairement. Le pragmatisme est même... l'appel métaphysique inhérent au pragmatisme ne passe pas nécessairement par Dieu. On peut très bien être pragmatiste en appeler à une puissance métaphysique, c'est-à-dire à des puissances... d'espace, de ce que James appelle parfois les invisibles, parfois des dimensions qui nous dépassent, parfois de l'infra-humain. Il a une très belle remarque dans sa correspondance. Il dit « Nous devrions penser à un univers fait de vie personnelle, infra- et supra-humaine. » Donc ça c'est l'appel métaphysique de James. Cet appel-là ne se destine pas nécessairement à la question de Dieu.
Oui,
c'est donc
vrai.
Ça, c'est le premier point. Le
D'ailleurs,
deuxième
c'est une série
point,
sur la métaphysique, mais voilà. Je voulais aussi pour qu'on comprenne bien.
Et deuxième point, c'est les enquêtes qu'a menées James notamment celle dont vous, sur laquelle vous vous référez, qui est les variétés de l'expérience religieuse. C'est une enquête. Hein. Ça ne veut pas dire que James est en adhésion avec ces enquêtes. Et James n'a cessé de faire des enquêtes. Et l'enquête, c'est extraordinaire, elle part d'un principe de l'empirisme radical qui est « vous ne pouvez rien exclure de l'expérience ». Si les gens sont habités de puissances religieuses, qui êtes-vous pour dire qu'elles sont, qu'ils se dupent.
Oui, oui, ça sont... c'est...
Et donc il mène ces variétés.
Il essaye de ne pas, de voir pas le bien que ça fait. Après,
il voit la manière dont des gens se sont engagés là-dessus et le monde qu'ils produisent avec cela. Et les fluctuations, qui est très centrale chez James, les fluctuations de la croyance, ça c'est très important. Nous sommes en perte de croyance, nous ne savons plus agir. Nous sommes en intensification de notre croyance, nous pouvons agir. Donc ce qui intéresse James, c'est de suivre, d'enquêter sur les puissances d'intensification de la croyance, parce que ce sont des puissances d'action, de nouveau. Et puis il y a le théisme dont vient de parler Stéphane Madel-Rieux, qui est le théisme de James. Et James ne cesse de dire « vous pouvez ne pas me suivre ». Cette
mais il s'engage, vous voyez, ce qui est d'ailleurs assez touchant chez James, c'est qu'il interviewe pas mal de gens, et puis il dit ce qu'il pense. Il pense, très franchement, que les gens sont plus heureux quand ils sont croyants que quand ils sont agnostiques. Et d'ailleurs, là, je veux quand même me permettre une remarque, dans ce gros livre très intéressant, Les formes multiples de l'expérience religieuse, on ne trouve pas vraiment d'athées heureux, et on ne trouve pas non plus beaucoup de croyants malheureux.
Alors,
vous me l'accorderez ?
Je vous l'accorde, tout simplement. Mais ce n'est pas la croyance. C'est d'abord la question, c'est qu'est-ce que James trouve dans son théisme ? C'est ça l'intérêt.
Mais qu'est-ce que c'est le théisme ? Pourquoi on parle de théisme, là ?
Le théisme, c'est penser une puissance d'une autre nature, mais qu'on ne caractérise pas nécessairement comme Dieu chrétien. Le théisme, c'est l'affirmation qu'il y a une puissance qui anime, et ça pourrait être même des puissances qui animent le monde, mais qui ne sont pas hors monde, pour James, qui sont à l'intérieur de ce monde. Mmh. Et si James est intéressé par cette question, c'est à la fois pour des questions morales. Et donc, il va dire, par exemple, est-ce que votre action morale ne change pas de sens ? Si vous pensez que le sens et la valeur de ce que vous avez fait s'éteindra avec votre vie ou avec cette action, est-ce que le sens des cultures et des civilisations s'arrête avec leur disparition ou ce sens et cette valeur va au-delà d'eux-mêmes ? Si elle va au-delà d'eux-mêmes, appelez-le comme vous voulez, dira James. Moi, je l'appelle théiste.
Oui.
C'est un accueil de la valeur et ça change la disposition de l'action. Si vous croyez que le sens de votre action touchera le futur au-delà de la particularité de votre action, appelez-le comme vous voulez, mais il faut donner un sens à cet accueil-là de votre...
Et ça change l'intensité. Vous êtes d'accord qu'on rencontre très très peu de personnages qui viennent un peu contredire son point de vue. Alors c'est peut-être parce qu'on est aux États-Unis, qui est une société très croyante, je ne sais pas, mais on rencontre aucun athée qui dit « je ne crois en rien et je vais très bien, et ma vie est large et pleine de possibles ». Quand il s'attaque aux figures du sceptique, il les décrit assez spontanément comme torturés, malheureux. C'est déjà le cas dans un livre dont on parlera un peu après, en 1897, « La volonté de croire ». Les sceptiques sont des gens qui n'ont pas assez d'énergie intérieur, dit-il.
C'est très compliqué, puisque dans le pragmatisme, il va opposer deux types de tempéraments. Il va opposer le tempérament qu'il appelle les délicats. C'est très intéressant. Les délicats, c'est des tempéraments idéalistes. Et il va dire, ce sont des tempéraments qui ont peur du monde et qui s'inventent sans cesse des protections. La critique que fait James à une certaine métaphysique, c'est qu'elle s'est arquée sur la question de comment se protéger du monde. Et James va dire que ce sont des êtres délicats et ils ont besoin d'une puissance de ce point de vue-là. Et puis il va parler des tempéraments robustes. Et il va dire que ces tempéraments robustes, ce sont ceux qui sont en confiance dans les particularités du monde. Mais d'une certaine manière, ce sont les athées, ces tempéraments robustes.
Et James va dire le pragmatisme. Il y a beaucoup de choses sous la plume de James qui disent que les athées vont bien.
Non, mais il va dire.
Je trouve ça un peu orienté.
Le tout se joue entre les deux.
Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Madel-Rieux ? Vous ne trouvez pas que le fait qu'il donne les réponses de l'enquête avant même l'enquête, puisque dès 1897-18, il dit que la foi religieuse, sous les conditions que vous avez précisées, c'est-à-dire si ce n'est pas un dieu dogmatique, mais si c'est un dieu aimant, un dieu qui prend soin de nous, un dieu qui nous ouvre les possibles, c'est génial pour les gens, enfin ils vont très bien, il va vers là, quoi, et son enquête démontre cela.
Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre la génération de James et puis la génération de Dewey, 20
philosophe
ans plus tard, le grand successeur pragmatiste, qui lui, dans un livre qui s'appellera « Une foi commune », essaiera de réorienter la foi des réalités surnaturelles et proprement religieuses vers quelque chose comme l'idéal démocratique, par exemple. Et recherchera à capter l'énergie, le dévouement qui sont détournés, dit-il, vers des croyances surnaturelles, au profit de l'intensification et l'amélioration des interactions entre les êtres humains. Donc il y a bien là l'effort de captation chez Dewey qu'on n'a pas encore chez James. Néanmoins, James est très critique envers un grand nombre de religions,
oui,
et de religieux.
Qu'il appelle dogmatique, asservissant les gens, etc.
Voilà, parce qu'il est critique de toutes les formes de pensée dogmatique qui cherchent effectivement dans des croyances absolument vraies ou dans une forme de quête de certitude, une source d'autorité qui devrait nous imposer certaines normes dans la conduite et dans la pensée. Donc c'est un philosophe anti-autoritaire pour ça en matière religieuse, et dans le contexte religieux de l'époque, il est ce qu'on appelle un moderniste, au sens où il veut adapter effectivement les croyances religieuses aux avancées des sciences, et non pas réaffirmer comme ce qui va bientôt s'appeler les fondamentalistes aux États-Unis à partir de 1909, les dogmes ou la vérité des dogmes religieux. Il n'est pas du tout effectivement là-dedans, et il les critique. Et du point de vue des expériences religieuses, il ne considère pas qu'elles sont toutes bonnes.
Mmh. Là, on passe à l'autre. Mais ce que je veux juste, excusez-moi, je veux juste signaler, parce que la fin du livre est très intéressante, c'est que même quand il critique, par exemple, l'esprit, je cite, de domination ecclésiastique, de domination dogmatique, il dit très vite, mais de toute façon, ça va s'arrêter, ces choses-là. Les bonnes religions plus douces vont triompher sur les anciennes. Vous voyez, il a tendance à minimiser la gravité. Et il y a une autre chose qu'il minimise, et c'est passionnant, c'est que quand même la piété, si elle est ce qu'il dit, elle ne fait jamais de mal. Voilà. Il le dit par exemple, nous ne devons, je cite, mettre sur le compte de la piété aucun des crimes atroces que l'on a commis et que l'on commet encore en son nom. Vous voyez, il y a quand même un parti pris que si la piété est ce qu'il dit, elle ne fera pas de mal. Inversement, les athées, même chez Dewey, Stéphane Madel-Rieu, même dans ce texte que vous venez d'évoquer, quand il dit avec qui on travaille le mieux, les athées ou les religieux qu'il faut certes dédogmatiser, il a du mal avec les athées. Il dit, le risque, c'est quand même l'athéisme agressif. Ils ne sont pas très à l'aise, les pragmatistes, avec la position franchement athée, heureuse, aimant les autres, mais athée. C'est pas leur truc, quand même, vous reconnaissez ?
Alors, sur Dewey, je pense qu'il est parfaitement athée et parfaitement heureux. Donc, effectivement, ce qu'il critique comme étant l'athéisme agressif, ça n'est pas ce qu'on appelle l'athée. C'est quelqu'un qui aurait perdu les connexions, dit-il, avec son environnement, avec la nature, avec les autres.
Ouais.
C'est ça, parce qu'en fait, c'est une image très déprimée des matérialistes athées qui pensent la nature comme étant forcément hostile et l'être humain comme étant comme ça perdu dans la nature. Et c'est pas du tout la conception de Dewey des rapports des êtres humains avec la nature. Et donc, si on appelle athéisme agressif ce type de matérialisme...
C'est le seul athéisme qu'il examine, c'est pour ça que je dis, c'est toujours intéressant.
Dans la correspondance, il dit, oui, bien sûr, je suis athée.
D'accord.
Oui, oui, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a aucune ambiguïté pour Dewey. Mais il n'y a aussi aucune ambiguïté pour James, il est croyant, ça c'est sûr. Et il veut justifier certaines formes de foi religieuse dans le monde moderne, mais d'une manière qui est compatible, effectivement, avec les sciences. Et si on revient à ce grand livre, des variétés de l'expérience religieuse, il faut d'abord rappeler aux auditrices, aux auditeurs, que c'est un livre de psychologie de la religion.
Oui.
C'est-à-dire que les pages que vous citez et qui sont très importantes, c'est les toutes dernières pages, c'est même le post-scriptum du livre, où il prend position en son nom propre et en philosophe sur la valeur de la croyance religieuse. Mais il a passé 500 pages avant à examiner, à décrire, à chercher à classer et à expliquer les phénomènes d'expérience religieuse, quels que soient d'ailleurs les types de religions. Il y a des exemples tirés de l'hindouisme ou du bouddhisme, de l'islam, du catholicisme et du protestantisme. Et il cherche à avoir une analyse psychologique qui rende compte de ces expériences, y compris de la manière dont elles sont vécues par ces gens. Et il est très neutre. Du moins, il cherche à être neutre.
Moi, je ne trouve pas neutre, mais je l'aime beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que, voilà, c'est clair qu'il y a très peu de contre-exemples. Alors, je vais, c'est vraiment pour qu'on ait un sourire aussi autour de ces questions, ce qui est si difficile, comme vous le savez, dans le monde contemporain. Je voudrais qu'on écoute, eh bien, Woody Allen, qui, dans Anna et ses sœurs, incarne un personnage qui semble vouloir se convertir au christianisme pour des raisons thérapeutiques. Il va toujours mal, vous le savez bien. Les personnages de Woody Allen ont un mal-être. Et à un moment, il se dit, je trouve ça très pragmatique. Et si je me convertissais, peut-être irais-je mieux. C'est la conversion thérapeutique. Écoutez.
Pourquoi croyez-vous que vous aimeriez vous convertir au catholicisme ?
Bien, parce que, voyez-vous, il faut bien que je croie en quelque chose, sinon la vie est tout bonnement dépourvue de sens.
Je vous comprends, mais pourquoi avez-vous pris la décision d'opter pour la foi catholique ?
Bien, vous voyez, d'abord parce que c'est une très belle religion, et c'est aussi très très fort comme religion, très bien structurée. Enfin, là, je parle de l'anti-intégrisme, l'anti-école privée, quoi, pro-avortement et anti-nucléaire.
Donc, pour le moment, vous ne croyez pas en Dieu ?
Non, mais je veux y croire. D'ailleurs, vous savez, je suis prêt à tout. Je peindrai des œufs de Pâques s'il le faut, hein, si ça marchait, quoi. Enfin, il me faut des pièces à conviction, quoi. Il me faut des preuves. Vous savez, si j'arrive pas à croire en Dieu, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
Cela implique un très grand saut.
Oui, mais vous pourrez peut-être m'aider, non ?
Comment ? Oh, mon Dieu !
Non, là, je comprends pas, là. Je croyais que vous seriez ravi, moi.
Mais comment veux-tu qu'on soit ravi ?
Mais parce que jusqu'ici, j'avais jamais pensé à Dieu. Et là, j'y pense très sérieusement.
Mais le catholicisme, pourquoi pas la foi de ton peuple ?
Parce que je suis parti du mauvais pied avec mon propre truc. Ça arrive. Mais j'ai besoin d'un changement radical dans ma vie.
Tu vas te mettre à croire en Jésus-Christ.
Non, et je sais que ça fait drôle, mais je vais essayer.
Enfin, pourquoi tu as été élevé en bon juif ?
Enfin, c'est pas parce que je suis né comme ça que je. Non, je suis assez grand quand même pour prendre une décision adulte.
Mais pourquoi Jésus-Christ ? Pourquoi tu n'es pas devenu, par exemple, bouddhiste ?
Maman, sors !
Bien sûr que tu existes, espèce d'imbécile, tu ne crois pas en Dieu ?
Mais enfin, si Dieu existe, pourquoi le mal fleurit partout dans le monde, hein ? Tiens, voyons ça d'un point de vue simpliste. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des nazis ?
Dis-le-lui, Max.
Mais comment veux-tu que je sache pourquoi il y a eu des nazis ? Je sais même pas comment marche un ouvre-boîte.
Anna et ses sœurs de Woody Allen, 1986. Bon, ça vous avez bien fait rigoler, ça me fait plaisir. Didier Debèz, il est Jamesien, ce héros de Woody Allen, incarné par Woody Allen.
Et alors, ce qu'il y a de Jamesien peut-être chez lui, c'est son inquiétude. Ce n'est pas nécessairement les choix qu'il fait, c'est l'inquiétude dans laquelle il est. Et James n'a cessé... C'est là où la question de l'athéisme est peut-être mal posée, parce que la question, c'est effectivement l'athéisme agressif, c'est celui qui disqualifie la croyance des autres, qui énerve James.
Mais quand même, dans La volonté de croire, dont nous pourrions parler, qui est un texte antérieur à ses enquêtes sur la foi, il dit clairement que quand on est inquiet, malheureux ou pessimiste, ça concerne bien les personnages de Woody Allen, il s'agit d'un malaise religieux. Oui. Et il suggère que si on croit, on est quand même préservé de ces choses. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux croire que ne pas croire.
Vous avez tout à fait raison, mais pourquoi limiter la question de la croyance à la croyance religieuse ?
Croyance dans l'invisible.
Oui, alors, James, c'est très beau l'extrait que vous avez cité de Woody Allen, parce qu'il finit par « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» qui est le titre du chapitre de James dans La volonté de croire, un des plus beaux chapitres de La volonté de croire. Question dramatique. Oui. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Et James part de ces situations de la perte de croyance. Mais c'est pas la croyance en Dieu, c'est la perte de croyance dans le monde. Et il y a quelque chose comme ça chez James. Nous ne croyons plus dans le monde à certains moments. Nous ne croyons plus dans les possibilités de notre action dans le monde. Et James reprend des poèmes et des textes qu'il appelle de pessimistes, de ceux qui ont, dont la croyance a tellement fluctué ou s'est tellement perdue qu'ils n'ont plus cru. Et James est passé lui-même par des crises d'existence très fortes. Mmh. Et il écrit dans ses passages, il parle de l'armée des suicidés devant laquelle nous devons parler. Comment, et nous ne parlons pas à leur place, nous ne parlons pas à la place de ceux qui n'ont plus cru dans le monde et qui n'ont plus cru dans la vie. Mmh. Nous parlons devant eux. Et la question que nous devons nous poser, dit James, question morale, intense, existentielle, c'est comment la croyance qu'ils ont eue dans la vie, dans le monde, a-t-elle fluctué ? À ce point, s'est-elle diminuée ? Et il va prendre des exemples de ceux qui sont nés deux fois, C'est une très belle expérience. Elle les a amenées une fois.
C'est un grand motif aussi de l'évangélisme contemporain. Renaître.
Renaître, oui, mais...
Se convertir et renaître à Dieu. En quelque... oui, mais... Je suis désolée, c'est quand même la question de Dieu.
Je comprends, mais James pose la question dans sa plus grande généralité. Oui. Vous pouvez croire au monde sans passer par le théisme. Vous pouvez croire... La question de la croyance est une question très générale. Croire, c'est dire le monde a un sens. Le monde, l'action aura un sens. Je peux donner un sens à mes actions. Le théisme est une des modalités de la croyance, mais James, dans la volonté de croire, ne pose pas directement la croyance religieuse. Il va parler de la croyance, la croyance à quelque chose qui nous anime, qui nous habite, qui nous attache à notre action. Et c'est ça la question de la croyance. Et d'ailleurs, les exemples que va prendre James en ces moments-là, sur les invisibles, ne sont pas des exemples théistes. Il va dire, par exemple, un animal, oui. Un animal de compagnie. C'est un exemple trivial que donne James. Il dit, un animal de compagnie, il est dans un monde invisible quand il est avec son maître. Et vous-même, vous êtes dans un monde invisible avec votre animal. Parce qu'il y a des fluctuations de son expérience auxquelles vous n'avez pas accès. Et il a des ordres de son existence auxquels il n'a pas accès. Nous sommes tous avec des mondes invisibles. Mais ces mondes invisibles ne sont pas des mondes uniquement théologiques. C'est pour ça que le recentrement de la question du pragmatisme sur la question théologique.
Non, pas théologique. La question théiste, de l'invisible. La question métaphysique. L'idée qu'il y a du méta.
L'invisible, pour James, c'est ce que font les scientifiques. Ah. Un scientifique est en prise avec des invisibles. Il va dire, c'est le peut-être de l'hypothèse. C'est le peut-être qui anime le scientifique. Il y a un monde auquel mes sens ne me donnent pas accès.
Oui.
Il y a un monde auquel ma pensée ne me donne pas tout à fait accès. Il y a un monde en insistance. C'est l'activité de la science. Ce sont les invisibles. Donc, il ne faut pas réduire la question de l'invisible chez James...
À celle de Dieu, c'est sûr.
À celle de Dieu, absolument pas.
Mais voilà, la question que je voudrais vous poser maintenant, qui me semble apparaître à ce moment-là dans l'itinéraire de James, un peu dans la volonté de croire de 1897, et certainement en 1902 dans les formes multiples, de l'expérience religieuse, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où James, au titre d'hypothèse, mais on sent qu'il est là avec son envie, et après tout c'est très légitime, dit mais finalement l'invisible, même religieux, même intellectuellement non prouvé, vous voyez, puisqu'il y a tout un débat avec son collègue Clifford qui lui dit il y a des religions... franchement, rien n'est prouvé intellectuellement, un philosophe se doit de les examiner. Et James dit, non, écoutez, c'est pas notre problème, ne mettons pas ça sur le plan intellectuel. Si ça fait du bien aux gens, si ça leur fait croire dans le monde, laissons le débat intellectuel au sujet des vérités qu'elles livrent et disons qu'elles sont vraies. Et c'est ainsi qu'en 1902, un moment du livre, à la fin en effet, il dit, il s'agit de savoir si la religion est vraie et non pas seulement si elle est utile. Et là, on franchit un cap quand même, Stéphane Madelrive.
On franchit un cap, et il appelle ça sa surcroyance.
Oui.
Complètement optionnelle, après effectivement 500 pages, où il a montré que toutes les preuves habituelles de l'existence de Dieu n'avaient aucune valeur. Les preuves rationalistes, par exemple, qui cherchaient à déduire l'existence de Dieu de son simple concept, de sa simple idée, ou même les preuves empiriques traditionnelles, comme l'argument du dessin, qui cherchait à inférer du constat de l'ordre et de l'harmonie dans la nature, l'idée qu'il y avait un auteur intelligent et bienveillant. Toutes ces preuves-là, il les pense absolument pas probantes.
Oui.
Et ce qui emporte sa conviction à la fin, c'est justement ces expériences religieuses spécifiques.
Oui.
C'est l'idée qu'il y a, comme l'extrait sur Woody Allen nous l'a montré, il y a des moments de conversion dans la vie des gens. Mm. Et c'est ça qui l'intéresse, je crois, dans la religion. C'est quelque chose de très humain et c'est ces expériences transformatrices de soi.
Donc là, il est jamesien, notre ami Woody Allen, dans ce film.
Il est jamesien, non pas parce qu'il veut croire, mais parce qu'il recherche une transformation existentielle.
Oui, d'accord.
Et qu'il pense que la religion est une des formes de facilitation de ces expériences transformatrices. Mmh. Et dans son livre, là, Les variétés de l'expérience religieuse, il va comparer ces formes de transformation où quelqu'un gagne la foi, par exemple, alors qu'il était désespéré ou est sauvé par la foi, à d'autres expériences de transformation comme celle que vit un alcoolique lorsqu'il est impuissant face à son addiction et que il n'arrive plus à faire un effort de la volonté et un effort de l'intelligence pour se sortir de sa situation et il lâche prise, si vous voulez, et que dans certains cas, c'est en lâchant prise, en renonçant à faire des efforts, que la transformation a lieu et il y a une forme de conversion à une nouvelle vie, une nouvelle naissance à la vie sobre. Il pense qu'il y a des processus inconscients, en fait, qui expliquent ces phénomènes de transformation. Et il va même jusqu'à citer, Géraldine, une conversion d'un religieux à l'athéisme. Qui va lui faire du bien. Allez, parce qu'il était tourmenté, et c'est un philosophe d'ailleurs.
Je l'ai raté, celle-là.
Je crois que c'est Jouffroy, un philosophe français du 19e siècle, qui, et donc il cite pendant toute une page les tortures de ce philosophe qui dit, mais est-ce que je vais abandonner ma foi? Qu'est-ce que je vais devenir, etc., etc. Et qui, au bout de cette nuit enfiévrée, arrête de croire. Et est soulagé à un sentiment de libération et d'émancipation par rapport à ce poids de son existence précédente. Et donc la religion pour James fonctionne comme une loupe qui nous permet de mieux comprendre ces expériences transformatrices qui peuvent aller dans un sens comme dans un autre, hein, de l'athéisme à la foi ou de la foi à ces expériences de déconversion, comme il les appelle. Et ce qui l'intéresse, c'est effectivement le fait que ces expériences amènent une forme de satisfaction ou de soulagement ou un sentiment de libération qui montre la valeur de ce processus transformateur.
Mais qu'est-ce que vous faites alors quand même de l'engagement de James, 10 ans dans la volonté de croire, que quand même... L'option religieuse, je le cite, est la seule véritable option vivante et même, ajoute-t-il, l'option obligée. Et d'ailleurs, il fait une analyse discutable, mais c'est pas notre problème, du pari de Pascal. S'il a choisi Dieu, finalement, c'était parce qu'il a choisi la vie augmentée, j'ai envie d'ajouter la vie, parce que la vie est plus belle. Quand même, reconnaissez que je veux bien qu'il y ait des cas d'athées qui se retrouvent plus heureux que quand ils croyaient, surtout si c'était de la religion très dogmatique et sans intérêt pratique qui était la leur, ou la sienne. Mais quand même, James dit « il vaut mieux croire dans la vie que de ne pas croire ». Vous êtes d'accord?
Alors si vous me demandez mon opinion personnelle sur cette thèse,
oui.
Je ne serais pas d'accord et je critiquerais effectivement cette conception religieuse de James.
Mais vous êtes d'accord qu'il dit cela?
Il dit cela, mais je crois qu'on peut, comme disait Didier Debesse, dissocier le pragmatisme des surcroyances particulières de James. De son analyse de la religion ou de tout théisme, comme il le reconnaissait lui-même, il disait le pragmatisme est comme un corridor que tout le monde doit emprunter et pour aller dans les chambres de l'hôtel. Et dans une des chambres, il y a un athée et dans une autre chambre, il y a quelqu'un qui écrit un livre sur la foi religieuse. Quelle que soit leur métaphysique, ils doivent tous prendre le corridor pragmatiste pour rendre leur propre conception claire. Donc, il envisageait tout à fait des pragmatismes athées.
Je crois qu'il faut dissocier la question du pragmatisme et même
de la volonté de croire et même de la volonté de croire de la croyance religieuse.
Et vous, Didier Debesse, c'est quand même... J'ai lu ce livre plusieurs fois, ainsi que les formes multiples. La thèse de James, c'est que il est mieux pour une vie d'humain, plus aisée, plus confortable, ça donne plus de sentiments de puissance dans l'existence quand on croit en de l'invisible que quand on n'y croit pas. Ai-je rêvé?
Vous n'avez pas. Alors, non, vous n'avez pas rêvé. Mais je crois que la discussion se pose sur la question du statut de ces invisibles.
Oui.
Et sur le statut de l'un de ces invisibles pour James, qui n'est pas l'invisible, mais un de ces invisibles, à savoir une puissance théiste.
Voilà.
C'est un des invisibles, ce n'est pas l'invisible. Et le statut de cette puissance pour James, étrangement, il va dire, en gros, le matérialisme pense au passé. Et le théisme pense au futur.
Oui.
Et c'est cette tonalité-là change tout. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que vos actions sont dans un univers indéterminé à fabriquer ? Et est-ce que vous êtes mieux équipé avec une puissance qui vous y accompagne, oui. Mais une puissance hétérodoxe, hein, parce que le dieu de James est absolument inimaginable. C'est un dieu qui se transforme, c'est un dieu qui s'intensifie par, nos, par les actions que nous menons dans le monde, c'est un dieu qui n'existe que, dans le, que nous ne sentons que par le monde, qui ne nous en sort pas, qui au contraire nous y ramène en permanence avec plus de force. Donc c'est un dieu immanent au monde.
Et alors la question de la vérité. Donc passons maintenant pour la dernière partie de cette émission à ce glissement que fait James, qui a d'ailleurs un peu dérangé certains de ses successeurs dans l'histoire du pragmatisme. Enfin vous m'expliquerez. Qui est bon. D'abord il s'engage à un moment, mais là c'est vraiment en son nom propre et pourquoi pas. Au bout de 500 pages d'enquête, il dit eh bien ces réalités spirituelles les plus hautes, donc qui font quand même du bien aux gens, il l'a montré, dit-il, croit-il, on arrête cette discussion, là, on l'a eu assez longtemps, je crois que ces réalités existent, et sur cette modeste surcroyance, je suis prêt à risquer ma destinée. Mais ensuite, dans le pragmatisme de 1907, il est tout à fait ferme, l'invisible, à partir du moment où nous y croyons et où il nous fait faire des choses bonnes dans nos vies, il n'y a aucune raison de ne pas lui coller le qualificatif de vrai. Je vous propose d'écouter deux extraits mis l'un à côté de l'autre du pragmatisme de James de 1907.
Le monde est tout à fait malléable. Il attend que nous lui apportions de nos mains les dernières touches. Comme le royaume des cieux, il souffre volontiers de la violence humaine. L'homme lui fait engendrer des vérités. Le gouffre qui sépare le pragmatisme du rationalisme apparaît à présent dans toute son ampleur. La différence essentielle réside dans le fait que pour le rationalisme, la réalité est toute faite et achevée de toute éternité. Tandis que pour le pragmatisme, elle est toujours en train de se faire et attend que l'avenir contribue à modeler son caractère. Il est évident que l'interprétation pluraliste de l'univers s'accorde mieux avec le tempérament pragmatique, car elle suggère immédiatement à notre esprit un nombre infiniment plus grand de détails concernant l'expérience à venir.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et là, James s'avance, hein, métaphysiquement. C'est d'ailleurs une partie de sa pensée qu'a très bien étudiée assez tôt dans ce pays, Jean Val, dès 1920, dans un livre très riche qui s'appelle « Les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique », réédité aux empêcheurs de penser en rond en 2005. James dit qu'il suffit finalement de croire, notamment dans le fait qu'il y a plusieurs mondes possibles, que Dieu est une figure que nous contribuons à faire exister en croyant en lui. Nous engendrons la vérité divine par le fait que nous la pensons et que nous y croyons, et qu'il y a plusieurs mondes possibles. C'est un pluralisme, c'est une très belle métaphysique qui donne un peu le mal de mer aux rationalistes étroits, comme le disait Jean Val. C'est une belle expression, c'est Emersonien, c'est Stevensonien, c'est aventureux, c'est sublime, c'est romantique. Mais est-ce que c'est encore du pragmatisme de dire que tout ce qu'on pense dans la tête de grand, de beau, d'invisible, si ça nous fait du bien, c'est vrai?
Alors, ce n'est pas... là, vous faites un raccourci, je pense.
Très bien. Expliquez-moi.
Je pense que les extraits que vous nous avez donnés, c'est des extraits sur le monde pluraliste. Et ce monde pluraliste, c'est un monde pluraliste en deux sens. Il est pluraliste non pas parce qu'il y a des mondes possibles au-delà de ce monde-ci, c'est que ce monde-ci est déjà une stratification d'une pluralité de
mondes.
Oui,
c'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi,
Il est pluralisé dans toutes ses dimensions, donc nous avons accès à des strates, nous avons accès à plusieurs strates, et par notre intelligence, par nos enquêtes, nous pouvons explorer d'innombrables mondes à l'intérieur de ce monde-ci, mais il y en a toujours d'autres.
Oui.
Et en même temps, c'est un monde fait de patchwork, c'est un monde avec de blocs d'expérience en blocs d'expérience. Et les idées, ce sont des choses qui nous permettent de circuler à l'intérieur de ce monde. Mais c'est un monde mobile. Deleuze disait très bien, c'est un monde de nomades que pense James. C'est un monde dans lequel nous circulons sur un sable mouvant
en permanence.
C'est
magnifique, il n'y a rien à dire.
Et nous, Nous ne sommes pas au-delà de ce monde, nous ne sommes pas en extériorité de ce monde. Nous sommes partie prenante de ce monde et nos actions le façonnent. Il y a une sorte d'existentialisme métaphysique au sens profond chez James, c'est-à-dire que nos pensées, nos théories, nos manières d'envisager les choses ne sont pas à l'extérieur du monde, ils font partie du matériau du monde. Et ce que James appelle l'expérience immédiate est un concept extraordinaire. C'est, vous prenez une situation, quelle qu'elle soit, situation de ce studio, vous la prenez, il y a une pluralité de choses, il y a nos souvenirs, il y a les objets techniques, il y a les discussions que nous avons, il y a les textes de philosophie. Pour James, tout ça fait partie de l'expérience immédiate. Il n'y a pas quelque chose qui est plus à l'intérieur de l'expérience immédiate. Nous ne pouvons rien en exclure. Ce n'est ni vrai ni faux, c'est l'étoffe de notre expérience.
Mais quand même, à un moment, il dit, si j'y crois, là, il vient de le dire, si j'y crois, si je crois que... Je voulais parler du possible, pas des mondes, oui. Mais que si je crois à la puissance du possible, grâce à l'aide de forces invisibles, voilà, j'essaie de vraiment de parler au plus près de son vocabulaire, alors c'est qu'elles existent. Je les fais exister par ma croyance, alors elles sont vraies. Ça, c'est un geste théorique très remarquable, au sens où il faut le remarquer quand même.
Elles existent, elles ont leur intensité. Pour James, nous ne pouvons pas les disqualifier de prime abord. Elles sont là, elles font partie de l'expérience immédiate. Mais dire qu'elles sont vraies, c'est spécifier un mode de l'expérience très singulier qui n'est pas le tout de l'expérience. La vérité n'est pas la vérité de l'expérience, c'est une vérité dans l'expérience. Je peux décider, par exemple...
J'ai pas compris ça, cette phrase.
Mais je peux m'interroger, par exemple, sur une croyance que j'ai. En général, les croyances, elles nous font agir. Mais je peux m'interroger sur le statut de cette croyance et je peux commencer à mener une enquête. Est-ce que cette croyance est vraie ? Je crois que, par exemple, César a été assassiné. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? La plupart du temps, je n'ai pas besoin de le savoir. Elle sait, ça me guide. Mais je peux mener une enquête. Comment je vais mener mon enquête ? Je vais aller explorer les documents, les textes. Je vais valider, vérifier cette croyance.
Donc, ce n'est pas seulement ses effets pratiques qui créent sa vérité, on est d'accord ?
Ben non, elle peut avoir beaucoup d'idées ont des effets pratiques sans être vraies ni fausses. Elles sont indéterminées. Et la question de la vérité est une posture et une singularité de l'expérience qui nous oblige à une certaine exploration. Et James va dire... Une idée devient vraie.
Une idée devient vraie. Attends, vrai, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle nous fait du bien, elle devient vraie. C'est quand même une lecture du pragmatisme singulière, Stéphane Malérieux. Si je crois en Dieu qui me fait du bien, Dieu est vrai. Excusez-moi, mais il y a un peu de ça. Si j'ai une idée en tête qui me pousse dans ma vie, qui m'aide à croire, elle est bonne et... Empirisme radical, il dit, eh bien, c'est une expérience. C'est vous qui me l'avez appris, Stéphane Madeleine. Vous commentez ça magnifiquement. C'est vrai. Ce que je pense qui me fait du bien, c'est vrai.
C'est vrai si c'est vrai dans tous les sens du mot vrai. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une croyance qui soit vérifiable empiriquement.
Comme dans toutes les sciences. Bon, d'accord.
Et si l'observation empirique dit le contraire, c'est une croyance fausse.
Oui, mais puisque l'empirique...
Et on ne va pas faire un effort pour croire ce qui est faux. Et c'est pourquoi James était très attentif sur la religion et les croyances religieuses de mettre en règle ses propres croyances religieuses avec l'état des sciences, avec l'état de la psychologie, avec l'état de la biologie. Et il ne croit pas en un dieu qui serait effectivement l'architecte ou le grand auteur intelligent qui aurait designé l'ensemble de l'univers et qui aurait créé l'univers. Il ne croit pas à ça. Il pense que Darwin a définitivement éliminé ce type de croyance religieuse. Ce dieu des créationnistes, il est éliminé.
Coup de pouce qui me fait aller bien le matin, parce que je pense qu'il y a une force invisible qui me soutient, je n'ai pas besoin de valider empiriquement cette idée plus que ça. Le seul fait qu'elle me fasse du bien est une expérience, donc elle est vraie.
Il faut qu'elle soit compatible avec les observations. Il faut aussi... qu'elle soit logique, c'est-à-dire que du point de vue de la validité logique des arguments ou du raisonnement des relations conceptuelles dans cette conception, cette théorie générale, il n'y ait pas d'incohérence. Donc il faut qu'elle passe le test intellectuel de la cohérence, il faut qu'elle passe le test empirique de la vérification expérimentale, mais, et c'est là sa question, n'y a-t-il pas des conceptions que nous entretenons qui ne peuvent pas être réglés ni par l'observation empirique, ni par le raisonnement intellectuel. Mm-hmm. La question que posait ou rappelait Didier Debesse tout à l'heure, la vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Vous regardez, vous observez. Est-ce que les observations des gens autour de vous vont vous aider à répondre à cette question ? Est-ce que ça suffit d'observer pour répondre à cette question ? Vous raisonnez intellectuellement à partir du concept de vie. Est-ce que le concept de vie implique en lui-même le fait que la vie soit digne d'être vécue ? Le fait que peu de gens se suicident suffit-il ? Est-il une preuve suffisante pour croire que ma vie a de la valeur et devrait être vécue ? Donc, l'observation empirique, les raisonnements logiques ne suffisent pas pour ce genre de questions, qui sont les questions métaphysiques et morales pour James, parce que ces questions portent sur le tout des choses, ou le tout de la vie, et sur la valeur de cette vie. Et la science peut nous aider à mieux préciser la formulation de ce type de questions en éliminant des mauvaises réponses, mais elle ne peut pas apporter de réponse. Et à ce moment-là, c'est tout l'être humain, dit-il, pas seulement l'observation et la perception, pas seulement l'intelligence, mais aussi l'émotion et la volonté qui doivent être engagées pour répondre à ce type de questions. Et donc, pour lui, effectivement, du point de vue des émotions, du point de vue de la conduite...
C'est vrai.
Ce sera vrai.
Je vous pousse, mais je crois qu'il
si,
est
c'est
très
vrai
audacieux,
aussi du point de vue James. Intellectuel ouais. Et du point de vue empirique.
La métaphysique qu'il défend, celle de la pluralité des choses dans le monde et de l'extraordinaire possible devant nous, Didier Debesse. Elle est bonne pour la vie des humains. Est-ce qu'il n'est pas clair qu'il la considère comme vraie, James ?
Alors, d'abord, la métaphysique pour James, elle est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Elle est au cœur même de la vision de James. Elle est à l'intérieur même de son empirisme. C'est ce que vient de rappeler Stéphane Madelayeux, à savoir, vous prenez n'importe quelle expérience. L'expérience la plus triviale, la plus basique, la plus factuelle, vous verrez, en l'explorant, qu'elle a des dimensions qui la dépassent de toutes parts. Dimension de relation, elle relie à d'autres, elle relie à son passé, elle relie à d'autres formes d'existence, elle relie à des émotions, elle relie à toute une série de choses. Et vouloir s'en tenir au fait le plus brut vous oblige à établir un immense réseau. Et c'est ça la métaphysique pour James. Mm-hmm. C'est ce qui nous permet de donner sens à l'expérience. Et elle n'est pas vraie, la métaphysique. Mais je crois que le problème que nous rencontrons sur la question de la vérité, c'est que pour James, la vérité est quelque chose de très singulier, qui ne résume pas l'expérience, qui apparaît parfois dans l'expérience quand c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, les choses ne sont ni vraies ni fausses, elles sont. Nos expériences ne sont ni vraies ni fausses, elles sont. Nos émotions ne sont ni vraies ni fausses, elles sont. Mais nous pouvons tenter de les vérifier. Et nous pouvons mettre à l'épreuve nos métaphysiques. Et James en appelait à une sorte de laboratoire de métaphysique. Mm-hmm. Mettons à l'épreuve les métaphysiques. Voilà.
Sister, you as old as your doubts, but brother, you as young as your faith. Folks who lend cash all have it. Folks who send trash all have it. It's undeniable. The folks who order hash all have it. Faith, faith, brother. I said faith, faith, little sister. We can hope for some charity, as long as we got some faith. Well, now faith can give you wings to fly. True faith can make you fly so high. Yes, faith can touch the sky. You can solve the riddle of it if you got a little of it. Folks who lend cash all have it. Folks who save trash all have it. It's undeniable that gamblers on their knees all have it. Faith, faith, the brother. Don't you know it's faith, faith, sisters. We can hope for some charity. We can hope for some charity. We can hope for some charity as long as we got faith.
Faith, foi, par Louis Armstrong, 1964. Merci beaucoup Stéphane Madelrieux et Didier Debesse pour cette conversation très stimulante. Et je vous propose à présent d'écouter Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle de la notion d'œuvre. Voici le pourquoi du comment.
Comment les œuvres nous apprennent-elles à vivre ? On peut appeler œuvre une création d'un travail humain qui se donne à contempler pour elle-même, par les autres humains. Telle est la définition la plus simple de l'œuvre à mes yeux. C'est un objet produit par des êtres humains, mais que d'autres êtres humains vont contempler pour elles-mêmes. C'est pour ça que nous y voyons une œuvre d'art, une technique qui produit quelque chose qui pourtant n'a pas d'autre but, même si c'est un vrai but, que d'être contemplée pour elle-même. C'est un vrai but au sens où Kant avait peut-être tort de l'extraire totalement de nos finalités vitales, ce qu'il ne faisait d'ailleurs pas tout à fait, puisqu'il y voyait aussi le sens de notre vie humaine, une destination morale derrière l'absence de finalité pratique apparente de l'œuvre d'art. Mais d'une certaine façon, dans l'œuvre, nous voyons toujours aussi un objet de contemplation qui a à voir avec le sens profond de notre vie. Ce n'est jamais seulement un objet de contemplation désintéressée. C'est aussi l'expression de quelqu'un qui nous dévoile ses admirations ou ses angoisses, comme une statue de Giacometti ou un tableau de Fautrier nous apprend quelque chose sur la fragilité de l'être humain au cœur du XXe siècle et nous apprend quelque chose aussi pour résister à cette destruction même. Il est tellement vrai que l'œuvre nous apprend à vivre que cela va parfois trop loin. Nous voyons en effet dans le monde lui-même quelque chose comme une œuvre. Nous sommes portés à voir des œuvres partout, à voir partout l'intention d'un artiste, le dessin, comme on dit, D-E-2-S-E-I-N, qui parfois se relie au dessin, D-E-2-S-I-N, la finalité qui se traduit dans la ligne, dans la forme du monde, eh bien, nous allons parfois trop loin, nous considérons le monde comme une œuvre et certains y voient un argument anthropomorphique pour la création divine. La science, elle, doit décortiquer les œuvres, le monde comme œuvre, et doit analyser plutôt le fonctionnement que cette sorte de projection de l'œuvre sur le monde. Mais l'œuvre, au fond, l'œuvre des humains, c'est ce qui se donne à contempler. Et la preuve que cela a une fonction vitale, à savoir si d'ailleurs toute œuvre a une dimension morale positive, c'est justement cette question de la finalité morale de l'œuvre. On parle même parfois des œuvres du mal, des œuvres du malin, des œuvres du diable. Il y a des œuvres qui nous paraissent méchantes, qui nous paraissent destinées à nuire. Cette destination de l'œuvre, alors, nous révèle quelque chose, en effet, sur la morale. Oui, le méchant ne l'est jamais totalement, involontairement. Il fait le mal consciemment. La preuve, c'est qu'il le contemple. La preuve, c'est que la cruauté elle-même peut avoir ses chefs-d'œuvre. C'est que les méchants sont des bourreaux qui observent avec délectation le travail de leurs mains. Ainsi, l'esthétique peut devenir négative. Il y a des œuvres de la haine, il y a des chefs-d'œuvre de la destruction. Il ne faut pas tomber là-dessus devant l'admiration esthétique, comme un certain compositeur allemand devant la destruction des Twin Towers en 2001. Au contraire, on peut y voir des œuvres, mais en gardant notre appréciation morale. Les œuvres nous apprennent à vivre contre le mal, parfois en décrivant la cruauté pour y résister, et parfois justement parce qu'il y a aussi des œuvres du mal. Et d'une certaine façon, donc, il faut que la notion d'œuvre soit à la fois coupée de la vie et reliée à la vie. Elle est, la finalité, c'est de créer un objet qui se donne à contempler pour lui-même. C'est l'art en tant que tel, puisque les œuvres du beau et du bien nous révèlent aussi la puissance démoniaque des œuvres du mal qui se donnent à contempler sarcastiquement. Alors, l'œuvre nous apprend à vivre aussi contre la mort.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kira avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Philippine de Bélois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Anna Feulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.
Vous êtes bien sur France Culture.
Tout à l'heure, soyez fidèles au poste. Les matins débuteront dès 6h30 comme tous les jours de la semaine.
Guillaume Erner.
Spinoza, le philosophe, est vivant. Il commente l'actualité. C'est tout à l'heure pour les matins.
Les matins de France Culture, aujourd'hui à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture.
L'Instant Poésie vous propose 20 poèmes de l'enfance.
Le récit de la cigale et la fourmi.
France Culture. Qu'on les connaisse par cœur ou qu'on les redécouvre aujourd'hui, qu'on les transmette à nos enfants et petits-enfants, ces poésies sont des moments privilégiés à partager en famille. Des moments de douceur à s'offrir pendant les fêtes.
La fourmi n'est pas prêteuse. L'art, son moindre défaut.
L'Instant Poésie, l'enfance par cœur. 20 poèmes à retrouver tout le mois de décembre, du lundi au vendredi à 21h30.
À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Allen Menschen bringt er nur Böses.
Allen Menschen bringt er nur Böses.
C'est l'histoire d'une sœur bénédictine, d'une femme, d'une artiste intrépide et fragile, surgie il y a 1000 ans en Allemagne et qui est devenue une légende vivante. Elle s'appelle Hildegard de Bingen, l'incarnation du génie féminin. Détentrice d'une œuvre artistique et scientifique qui dépasse l'art.